L'ordre et le désordre, le fini et l'infini, le visible et l'invisible, à toutes les échelles, la science nous montre à quel point tout semble régi par les antagonismes. Dans les années 70, le philosophe et sociologue Edgar Morin introduisait l'idée de la complexité du monde. Et dans son nouvel ouvrage qui sort chez Fayard, il nous invite à nous aventurer aux confins de la connaissance pour appréhender justement et ressentir les paradoxes entre la connaissance, l'ignorance et le mystère. De la naissance de notre univers à la construction de notre cerveau en passant par l'évolution de la vie, dialogue donc sur le mystère. Edgar Morin est dans un instant l'invité de la Tête au Carré. Il répond à vos messages et toutes vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, les océans du globe qui se réchauffent visiblement à grande vitesse.
Oui, et quand on veut connaître le futur du climat, une des clés se trouve dans les océans. Une nouvelle étude montre qu'ils se réchauffent en moyenne 13% plus vite que prévu. On plonge donc à 2000 mètres dans des eaux tiédissantes avec la physicienne Virginie Thierry.
Stéphanie Texier est aujourd'hui aux commandes de notre émission.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Bienvenue, vous publiez donc Connaissance, Ignorance et Mystère chez Fayard. Alors avec ce livre, vous avez donc choisi de nous faire ressentir, moi je trouve, le vertige de la vie, avec tous ces paradoxes et ces antagonismes. Pour bien vivre justement, est-ce qu'il faut accepter de naviguer dans cet océan que vous décrivez de mystère, de complexité et d'incertitude ?
Bien, d'un côté, il nous faut reconnaître que beaucoup de choses essentielles reste inexplicable et inconnu pour nous, mais ceci ne dévalue pas, à mon avis, l'effort de connaissance, mais ceci nous rend plus familier l'étonnement, l'émerveillement, le sens du mystère. Donc je pense que au lieu de les opposer, d'opposer la connaissance à l'ignorance et au mystère, et sont solidaires. Plus on avance en connaissance, plus l'inconnu progresse.
C'est vrai.
Et plus, à travers l'inconnu, le mystère est présent.
Ouais, la complexité du monde et cette première phrase de votre livre, « J'aime connaître », on va en parler avec vous dans un instant. Vous êtes l'invité de l'émission et vous répondrez également aux messages des auditeurs. À tout de suite, Edgar Morin.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et l'impact du réchauffement climatique sur les océans avec des estimations de plus en plus chaudes, donc aujourd'hui à la une de la science.
Quand on parle de climat, en général on pense tout de suite à l'atmosphère et quand on parle des changements climatiques, à la température de l'atmosphère qui augmente. Mais les principales joueurs dans les systèmes climatiques, c'est l'océan.
Et c'était la voix de l'océanographe Sabine Spech dans un documentaire du CNRS Images. Vendredi, donc, la revue Science mettait au jour les connaissances concernant le réchauffement global des océans, mettait à jour ces connaissances. Et elle estime que le processus est 13% plus rapide que nous le pensions. Pour commenter justement ces résultats, Virginie Thierry, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IFREMER au laboratoire d'océanographie physique et spatiale de Brest. Et puis dans ce studio, comme tous les lundis avec nous, Hervé Kempf, notre partenaire de Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour. Mathieu.
Hervé, l'avenir du climat sur Terre se joue surtout dans les océans. C'est ce qu'il faut se rappeler quand on lit à nouveau cette étude ?
Oui, absolument. Bien plus que l'atmosphère, c'est l'océan, le système océanique global qui est le grand régulateur du climat. Pourquoi ? Eh bien parce que les océans absorbent les excès de CO2, le gaz carbonique qui est le principal agent de l'accroissement de l'effet de serre. Alors il en absorbe plus de 90%, c'est beaucoup par rapport à l'atmosphère. Essentiellement par dissolution directe dans l'eau de mer, un petit peu aussi par accumulation du plancton mort au fond des océans. Mais le problème est qu'à la longue, l'océan qui joue une sorte de tampon du réchauffement risque de relâcher cette énergie thermique accumulée. Alors un point de départ, c'est de bien mesurer cette énergie thermique et ce CO2 enfoui dans l'océan. Depuis 2005, on a maintenant un système précis qui lie 3500 bouées argot réparties à la surface de tous les océans et qui envoie leurs données vers des satellites. Mais que se passait-il avant 2005 ? C'est ce que des scientifiques se sont posés comme question. Ils ont repris toutes les données entre 1960 et 2005 et ce qui les a conduits à réévaluer le taux de réchauffement de l'océan. C'est pas une très bonne nouvelle, la conclusion c'est que l'océan se réchauffe 13% plus vite qu'on ne le pensait auparavant. Et le taux de réchauffement est deux fois plus rapide depuis 1992 que ça n'était le cas entre 1960 et 1992.
Axel.
Alors Virginie Thierry, une nouvelle étude, toujours plus alarmiste. On avait encore besoin de preuves, on avait besoin de reprendre les données anciennes pour comprendre le réchauffement ?
Oui, en fait, je pense que déjà dans le contexte où il y a pas mal de personnes qui se posent encore des questions sur la véracité de ce réchauffement, je pense que c'est toujours important qu'il y ait des nouvelles études qui confirment encore et toujours que l'océan se réchauffe. Il se réchauffe peut-être même encore plus rapidement que ce qu'on pensait. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est finalement les comparaisons entre les différentes études. Les chercheurs vont utiliser des méthodes un peu différentes. Donc, c'est les mêmes données, parce que ça, on peut pas les inventer, mais ils vont les combiner de façon différente, suivant des méthodes différentes. Et finalement, c'est la convergence des résultats qui va permettre de vraiment confirmer les résultats et confirmer le réchauffement qui est observé.
Alors ici, les auteurs soulignent que le réchauffement gagne de plus en plus les profondeurs. C'est une source d'inquiétude supplémentaire ?
Alors, c'est effectivement déjà c'est déjà important de le mesurer. Donc, inquiétude, oui, parce que voilà, ça peut affecter les couches profondes. Après, c'était inéluctable. On sait très bien que les signaux, ils vont pénétrer dans l'océan et ils vont, avec la circulation océanique, ils vont se propager dans l'intérieur de l'océan et en grande profondeur. Et donc, ce que montre l'étude, c'est que finalement, dans le passé, le signal de réchauffement en profondeur était relativement faible et que là, il s'accélère au cours du temps. Et donc là, on a des observations en fait avec le réseau Argo qui vont jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et ce qui est important aussi pour le futur, c'est de pouvoir mesurer au-delà de 2000 mètres de profondeur. Et on est justement en train de développer des nouveaux flotteurs Argo de nouvelle génération qui vont permettre d'aller jusqu'à 4000, voire 6000 mètres de profondeur. Et donc permettre de vraiment quantifier le réchauffement de ces profondeurs, de ces masses d'eau profondes.
Pourquoi étudier l'océan et son réchauffement est important quand on veut prédire le climat ?
Donc déjà, on voit que c'est que l'océan a stocké 93% de l'excès de chaleur reçu par la Terre. Donc ça a nécessairement un impact sur l'océan. En fait, en se réchauffant, l'océan va aussi réchauffer l'atmosphère qui est au-dessus et donc va impacter le climat de la Terre. Mais en même temps, ce réchauffement a des conséquences sur les écosystèmes, a des conséquences sur la capacité de l'océan à stocker du carbone, et notamment du carbone émis par l'homme. Et donc, s'il en stocke moins, il y en aura plus dans l'atmosphère et ça va renforcer l'effet de serre et donc renforcer le réchauffement. Ça a des impacts aussi sur la capacité de l'océan à stocker de l'oxygène. Et on sait qu'avec le réchauffement, on risque d'avoir moins d'oxygène dans l'océan, donc ce qui peut avoir aussi des impacts sur l'écosystème. Donc, on a besoin de comprendre où va cette chaleur et comment elle va impacter l'océan et tout le système climatique.
Avec EMF. Un des co-auteurs de l'étude, John Abraham, est très alarmiste, si j'ose dire, dans sa présentation de l'étude. Il dit que ce réchauffement des océans va conduire, et il le dit de manière très affirmative, à beaucoup plus d'orages, de typhons. Il cite même des cas d'inondations ou d'ouragans qui ont frappé les États-Unis cette année. Est-ce que cet alarmisme est possible pour un scientifique ?
C'est clair que si, en fait, notamment la génération des ouragans est liée à la température de surface, et donc quand elle dépasse un certain seuil, je crois que c'est 28 degrés de mémoire, quand la température des 50 premiers mètres dans les zones tropicales dépasse donc ces 28 degrés, c'est là qu'on peut avoir génération de cyclones, par exemple. Et donc si la température moyenne des océans se réchauffe, il y a probablement plus de probabilité qu'on dépasse ce seuil de 28 degrés et donc on génère des cyclones. Donc oui, je pense qu'il y a des risques. Après, on ne les connaît pas tous. C'est pour ça qu'il faut aussi améliorer nos modèles pour affiner les risques et les prévisions de réchauffement et d'impact sur la circulation et le climat.
Edgar Morin, dans votre livre, le chapitre Post-humanité, dans lequel justement vous parlez de la dégradation de la biosphère, du réchauffement climatique, lien direct avec la mondialisation de notre société ?
Incontestable, c'est-à-dire ça a un lien. Cette mondialisation est un processus d'industrialisation, de développement économique amplifié, accéléré. Moi, j'ai été alerté au problème écologique en 1969 par un article d'Ehrlich qui s'appelait « La mort de l'océan ». Et c'était pas seulement le réchauffement de l'océan, c'était sa pollution et sa dégradation avec la surpêche. Alors pensez que nous avons l'océan, nous avons l'atmosphère, et notamment dans les villes. Et vous avez aussi les sols avec l'agriculture industrialisée. Vous avez donc un processus de dégradation formidable de tous les côtés. Et on n'en prend pas assez conscience. Voilà le grand problème.
pour rebondir sur ce que dit Edgar Morin, Virginie Thierry, on a quand même l'impression que ce qu'on décrit, c'est un énorme cercle vicieux dans lequel il n'y a pas d'issue. Le réchauffement est inévitable.
Ah ben pour l'instant, oui, ben l'issue, je pense que c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, tant qu'on n'en sera pas là, je pense que le réchauffement est inévitable. Et ce qu'il y a, c'est que on va pas pouvoir, même si on stoppait ou si on se maintenait à un seuil, enfin à la quantité actuelle de CO2 dans l'atmosphère, je pense que le réchauffement, lui, va continuer parce qu'il y a une inertie assez forte. L'océan stocke cette chaleur et va relarguer ou va réémettre finalement cette chaleur d'ici plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc ce qu'on fait maintenant aura des impacts pour des années et des années encore devant nous. Donc,
allez, dernière question très rapidement, Hervé Kempf.
Donald Trump a annoncé qu'il voulait couper de 20% le budget de la NOAA, l'agence de recherche sur les océans. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'étude dont on parle aujourd'hui, vos études?
Clairement, parce que les Américains sont les premiers contributeurs au réseau Argo, donc ce réseau de flotteurs autonomes qui permet de surveiller justement la température et la salinité des océans. Et donc si les Américains se retirent, si les US se retirent de ce programme-là, on n'aura plus toutes ces données et donc on ne sera plus en mesure de mesurer le réchauffement climatique et certainement ce sera plus facile de dire qu'il n'y en a pas.
Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, Virginie Thierry. Océan et réchauffement climatique, le lien sur reporter.net, Hervé bien sûr. Hein.
Dès demain.
Merci beaucoup et Axel, à demain.
Également à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une expérience de tous les extrêmes à venir dans l'ISS. Les scientifiques de la NASA se préparent à mener à bord de la station spatiale une expérience hors du commun. Ils vont s'approcher au plus près du zéro absolu, moins de 273,15 degrés Celsius, la température la plus froide pouvant être atteinte par la matière. Profitant de la microgravité de la station, ils prévoient donc ces scientifiques de refroidir du gaz contenu dans une chambre à vide, à un tel point que les atomes seront quasiment immobiles. Si tout se passe comme prévu, le système de refroidissement à base de laser permettra de frôler de quelques millionièmes de degrés ce zéro absolu théoriquement inatteignable. Les bébés guillemots se jettent de la falaise avant même de pouvoir voler. Ce drôle de comportement observé depuis longtemps chez cet oiseau marin arctique intriguait depuis longtemps les ornithologues. Pourquoi, alors que ses ailes ne sont pas encore fonctionnelles, le petit guillemot se jette-t-il du haut de son nid pour s'écraser soit dans l'eau, soit sur les rochers? Eh bien, c'est un réflexe de survie, répondent deux chercheurs canadiens. Les guillemots, s'ils survivent à ce premier saut, auront statistiquement plus de chances de passer l'hiver que s'ils attendent dans leur nid la nourriture issue de la pêche de leurs parents. Et puis pour finir, notez que ce lundi commence la semaine du cerveau, organisée chaque année depuis 1990 par la Société des Neurosciences, l'occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants de rencontrer donc le public et de partager avec vous les avancées obtenues. Des ateliers, des conférences, des expos, des spectacles dans toutes les villes, avec le programme qui est à découvrir sur semainedducerveau.fr. Et demain, justement, nous recevrons le neurologue Pierre-Marie Liédeau. Et de cerveau, il sera également question d'ailleurs dans un instant avec Edgar Morin, mon invité dans La Tête au Carré.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm going to buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman.
I found him messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well, all right.
Hey Joe, Willie DeVille à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Edgar Morin, penseur transdisciplinaire et indiscipliné, qui est donc notre invité cet après-midi à l'occasion de la parution donc chez Fayard de ce livre Connaissance, Ignorance, Mystère, et les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Edgar Morin, avec cet ouvrage, vous nous invitez donc à comprendre la complexité de l'univers et de la vie. Considérer cette complexité et le mystère justement qui l'accompagne, c'est indispensable selon vous pour comprendre le monde qui nous entoure?
Je crois que la complexité n'épuise pas, toute explication et toute connaissance. Ça nous amène, c'est une connaissance plus riche qu'une connaissance qui se fait de façon découpée et en disciplines séparées, mais elle comporte en elle déjà l'incertitude, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut jamais éliminer l'incertitude. Mais là, je vais un peu au-delà. Je dis que je fais une remarque qu'on a faite depuis l'Antiquité et même que Pascal a faite, c'est-à-dire que plus on accumule la connaissance, plus on arrive à une nouvelle ignorance, c'est-à-dire que ça n'est pas le point de départ, l'ignorance dont on est parti, c'est une ignorance consciente d'elle-même. Et moi, ce qui m'a frappé, c'était le lien permanent qu'il y avait entre surtout à notre époque contemporaine, où les sciences ont fait des progrès inouïs dans les connaissances, sur l'univers, sur la vie, sur l'humain. Et ces progrès inouïs nous ont ouvert à de l'inconnu nouveau, à des mystères. Comment l'univers est-il né? D'où est-il sorti? Pourquoi la vie est-elle si rare? Pourquoi l'homme est-il sorti? Et toutes ces questions. Et j'avoue que, en plus, moi, étant donné que l'on sait que la philosophie est née de l'étonnement, moi, je pense que la philosophie aboutit à l'étonnement. Moi, je m'étonne sans cesse de vivre. Je m'étonne de marcher dans la rue. Je m'étonne de voir des oiseaux, des papillons, des fleurs. Je pense que, d'ailleurs, je fais une citation de Jean Kelevitch qui dit que le mystère est dans les choses, il n'est pas seulement derrière les choses. Et c'est vrai, je me dis toujours, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi je vois les gens dans la rue? Pourquoi? Mais je sais que c'est pourquoi, non pas de réponse, mais en même temps, je continue à accumuler les connaissances, parce que je pense que nous avons un jeu permanent où nous avons besoin de connaître, et nous avons maintenant, je pense, besoin de nous confronter en permanence, d'une part avec l'inconnu. Alors l'inconnu, ce n'est pas le mystère seulement. L'inconnu, ce sont des choses que nous connaîtrons sûrement avec l'évolution des connaissances scientifiques, il y a beaucoup. Mais je pense qu'il y a des limites à notre cerveau, des limites à notre esprit, et que ces limites-là ne nous permettent pas d'aller au-delà. Alors peut-être que la poésie, peut-être que la mystique nous donne le sentiment d'aller au-delà, le sentiment de nous... Par exemple, les mystiques, on a fait des expériences sur des moines bouddhistes et on a vu que dans l'état d'extase totale, les centres cérébraux qui font la séparation entre moi et le monde sont inhibés. C'est-à-dire, et peut-être quand vous avez une extase amoureuse, vous avez un sentiment de fusion. Bon, ce sont des sentiments vécus très importants dont nous avons besoin, mais eux-mêmes, ils dépassent toute connaissance. Et moi-même, dans la complexité, j'ai montré que les grands problèmes arrivaient à, nous arrivons avec les grands problèmes à des contradictions logiques. L'homme est un être raisonnable, homo sapiens, et en même temps, c'est un être capable de folie. Ce sont les pôles de la réalité. Nous sommes un tissu de contradictions, comme Pascal l'avait montré. Et quand nous voulons comprendre les vrais problèmes profonds du monde, nous arrivons à des contradictions. Donc, c'est ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une illusion de croire que l'on sait tout, de dire nous sommes dans une société de la connaissance. Pas du tout. On est une société de multiplication des connaissances.
Vous dites même qu'on est dans une régression de la connaissance aujourd'hui, alors qu'on est souvent inondé d'informations.
Bien sûr.
On régresse du point de vue de la connaissance.
Bien sûr. Trop d'informations tue l'information, comme on a dit. Et cette nuée, cette pluie d'informations nous rend hagards parce que nous n'avons pas les moyens de créer des théories capables de comprendre cet univers, parce que nous n'avons pas les moyens de rassembler éléments.
Ça, c'est la grande quête de la physique, justement, de pouvoir trouver la grande théorie du tout qui pourrait unifier les choses. Mais pour l'instant, ça reste l'objet d'une recherche.
Moi, je ne pense pas qu'on soit capable de trouver une unité. Je crois que c'est un rêve philosophique, ou je dirais presque métaphysique, chez ces gens, d'avoir la clé unique. Moi, je crois que à l'univers, au début, enfin, ce qui marque l'univers, c'est son côté que j'appellerais dialogique. C'est-à-dire que dans l'univers, ce qui est remarquable, l'avait déjà dit Héraclite, c'est que les forces de concorde et les forces de discorde jouent simultanément. L'univers n'est pas un tout harmonieux que l'on peut unifier sous une loi. L'univers est un lieu à la fois de rencontres, de conflits, d'attractions, de formation d'atomes, d'étoiles, et de destruction, de démolition,
c'est ça.
Mais etc.
Alors, sauf que finalement, Edgar Morin, dans tous les exemples que vous citez, entre le cosmos par exemple, le mécanisme de la vie aussi, de l'évolution ou de l'humain, on a toujours finalement cet antagonisme et cette complémentarité en toute chose. C'est-à-dire ce mécanisme de vie et de mort, il est valable aussi bien pour les étoiles que pour l'humain.
Oui. C'est ce que disons sur le plan un peu humain, c'est l'inséparabilité des deux ennemis, Eros, qui est l'attraction et l'amour, et Thanatos, qui est la mort et la désintégration. Ça, c'est notre univers. C'est pour ça que chercher une loi d'harmonie, c'est une pure illusion.
Mais ce serait pas ça la loi universelle, au fond?
Hein, oui, c'est peut-être ça.
Cette apoptose,
la loi est double.
Cette vie et mort en
c'est
tout.
Une loi dialectique, c'est une loi double. Mais là-dessus, on ne comprend pas pourquoi il y a un univers. On ne comprend pas pourquoi, d'après les interprétations des astrophysiciens, d'un vide qui contiendrait des énergies potentielles infinies naîtrait l'univers. Déjà, cette idée d'un vide qui contient des énergies potentielles est une idée contradictoire.
Edgar Morin, on va écouter Étienne Klein justement à ce sujet, hein, parce que c'est un de ses grands thèmes pour nous parler du Big Bang et du commencement, avec cette question qui reste très ouverte. Il en parlait justement très récemment au micro des Saventuriers avec Fabienne Chauvière.
Est-ce que le Big Bang, c'est vraiment l'origine de l'univers?
On commence à se poser la question.
En fait, non. C'est-à-dire la question de savoir si l'univers a une origine ou pas est une question ouverte. À condition, évidemment, de prendre le mot origine dans son sens le plus radical. Ce que j'appelle l'origine de l'univers, c'est la transition qui fait passer de l'absence de toute chose, donc il n'y a absolument rien, à l'apparition d'une première chose. Donc dire que l'univers a eu une origine, c'est dire que cette transition a eu lieu. Est-ce qu'on est sûr que cette transition a eu lieu? La réponse est non.
Donc on ne peut pas dire que l'univers a commencé un jour, à un moment précis.
Voilà, on n'est même pas sûr qu'il ait commencé. C'est-à-dire on peut imaginer qu'il y a toujours eu quelque chose. Et d'ailleurs, ceux qui nous parlent de l'origine de l'univers nous disent toujours, au début, il y avait ceci ou cela. Le vide quantique ou je ne sais quelle autre entité transcendante. Mais alors, cette chose qui était là au début, est-ce qu'elle a toujours été là? Auquel cas, l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose qui était là au début est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée. Auquel cas, c'est pas l'origine.
Voilà, les Saventuriers en 2014. Edgar Morin, cette question du commencement, elle reste ouverte. Hein. Elle est vertigineuse quand même.
Elle a été ouverte une fois pour toutes par Emmanuel Kant. Parce qu'il a dit, ou bien il y a un commencement dans l'univers, alors il commence à partir de quoi? Et c'est absurde. Ou bien il y a une éternité. Alors, pourquoi? D'où est sortie cette éternité? c'est nos mains, quoi. Donc, si vous voulez, l'idée d'un commencement à zéro et d'éternité, c'est une idée absurde. C'est-à-dire, ce sont des problèmes qui dépassent notre esprit.
C'est ça.
Par contre, comme on dit aujourd'hui, il y a une transition, il y a une, on peut dire une métamorphose. Il y avait quelque chose qui s'était avant, qu'on peut appeler ça vide, plein d'énergie, et qui, à la suite d'un événement, s'est transformé en notre univers matériel.
Mais ce sont des hypothèses, hein, on est sûr de rien.
D'abord, ce sont des hypothèses, et ensuite, d'ailleurs, il y a énormément d'hypothèses, mais je dis que le fond épistémologique, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance, ne peut pas être traduit dans notre logique. C'est pour ça qu'il faut accepter
nos limites.
Ce mystère de l'univers.
Et nos limites humaines aussi, alors. Est-ce que vous pensez qu'un jour on répondra quand même à cette question, ou là on est vraiment face à un mur de Planck quasiment de la pensée humaine?
Ben écoutez, on est devant plusieurs murs de Planck, parce que tout d'abord, il y a le problème de la vie. Nous savons qu'il faut, on a supposé qu'il y a eu des tourbillons, des interactions sur la Terre primitive il y a 4 milliards d'années, de milliards de macromolécules, les unes d'acides aminés, l'autre de protéines, et que l'ensemble, en s'unissant, a créé cette chose nouvelle, incroyable, qui est la vie. Parce que la vie a des propriétés que n'ont pas les molécules, c'est-à-dire la reproduction, la réparation, la connaissance. Donc, est-ce que la vie est née une fois sur Terre ? C'est possible parce que tous les vivants ont le même langage, le même code génétique. Est-ce qu'il existe la vie dans l'univers ? À mon avis, c'est très peu probable.
Ah
c'est
bon ?
Pas impossible puisqu'il y a des myriades planètes. Mais les conditions dans lesquelles la vie est née sont tellement exceptionnelles qu'on ne peut douter de ça. Et donc, si vous voulez, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas d'autres. Peut-être qu'on en connaîtra d'autres intelligents, qui ne soient pas vivants, qui aient d'autres qualités. Mais c'est la vie sur Terre, elle est marginale. Dans la vie, l'apparition de l'homme, elle est hyper marginale. Autrement dit, tout ce qui est créateur de complexité est toujours un phénomène. Par exemple, la matière dans l'univers est marginale. Il y a un vide énorme
dans
l'univers.
Donc,
si vous dites que l'univers est créé pour aller vers la plus de complexité, comme disait Théard de Chardin, et arriver à une spiritualité totale, je crois que c'est une vision un peu unilatérale.
Connaissance, ignorance, mystère, c'est chez Fayard. Edgar Morin est l'invité de La Tête au Carré cet après-midi.
Quand le rouge se noie tout au fond de ses yeux, teinté de gris, teinté de noir, mais jamais plus teinté de bleu. Le ciel se voile au-dessus ce soir. Quand l'air se déchaîne jusqu'au bout de mes ailes, l'orage pose ses dernières forces pour que l'envol redevienne frêle. Et le vent souffle si fort ce soir. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. L'orage s'installe dans ses mains, dans ses gestes. Les mouvements s'emballent, il étouffe et je reste là. À le voir manquer d'air. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. Et le tout s'installe dans ses mains, dans ses gestes. Les mouvements s'emballent, il en crève. Et danse autour de moi, elle m'accompagne. Et dans l'escorte qui sera mienne, il me désarme et puis me gagne. Et je leur cède à cœur ouvert. Les larmes coulent dans les flammes et les éteignent. Après les larmes vient le silence. Il dit qu'il reste, il dit qu'il m'aime. Et je l'accueille à bras ouverts. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. L'orage s'installe dans ses mains, dans ses gestes. Les mouvements s'emballent, il étouffe. Et je reste là à le voir manquer d'air. Et de l'homme à l'animal, il va et il vient. Tout s'installe dans ses mains, dans ses gestes. Les mouvements s'emballent, il
de l'homme à l'animal. Et c'est la voix de Bessa à l'instant sur France Inter. Edgar Morin, connaissance, ignorance, mystère, paraît donc aujourd'hui même chez Fayard. Alors depuis le premier tome de la méthode, justement en 1977, vous n'avez au fond jamais cessé de dialoguer avec le mystère et la complexité. Edgar Morin, est-ce que là, ce livre-là, c'est aussi une façon de faire connaître votre pensée à une nouvelle génération qui n'aurait pas justement connu la méthode ?
C'est une enfin, je n'ai pas eu ce dessin particulier. J'ai voulu, vous savez, on écrit un livre à la fois pour soi-même, pour tout le monde et pour personne. Et donc, je l'ai écrit aussi pour moi-même, pour m'éclairer sur les relations, sur jusqu'où les frontières de la connaissance, jusqu'où on peut la connaissance peut-elle patrouiller. C'est un peu ça qui m'intéressait. Autrement dit, c'est le prolongement de la méthode, mais en même temps, j'y mets tout ce que, en gros, tout ce que je sais, tout ce que je crois savoir. Voilà.
Vous m'avez dit tout à l'heure hors antenne, vous avez parlé de testament pour parler de cet ouvrage.
C'est peut-être aussi un testament de ma façon de penser. Je crois que je ne pourrais pas aller plus loin que ce livre-là.
Alexandre nous dit ceci, je vois la connaissance comme une sphère qui gonfle dans l'univers. Ce que nous connaissons est dans la sphère, ce que nous ignorons est en dehors, et la surface représente l'inconnu auquel nous sommes confrontés. La conséquence, c'est que plus nous savons, plus cette sphère grandit, et plus nous sommes confrontés à l'inconnu. C'est exactement ce que vous nous racontez, au fond.
Oui, d'ailleurs, Pascal avait dit la même chose. Au lieu de parler de sphère, il parlait de cercle. Et c'est effectivement... D'ailleurs, j'ai cité une phrase d'un poète romantique allemand. Plus le savoir s'accroît, plus l'ignorance s'accroît. C'est-à-dire, on peut prendre l'image de la sphère ou du cercle. Et je crois que c'est une chose que l'on peut constater.
Ouais, sauf que vous regrettez beaucoup, Edgar Morin, le cloisonnement et la compartimentation de la connaissance aujourd'hui, en science en particulier. Ça, c'est un problème pour vous, ces disciplines hyper spécialisées au fond? Ça empêche d'avoir une vue d'ensemble sur les grandes questions fondamentales?
C'est sûr, parce que si vous voulez une connaissance trop compartimentée, tout d'abord, isole les objets de leur contexte. Or, on ne peut comprendre une chose, un événement, que dans son contexte. Et le contexte lui-même, c'est aussi bien l'histoire, la géographie, mais c'est aussi, par exemple, la mondialisation. C'est à la fois le texte et le contexte, parce que la mondialisation, c'est une interférence de problèmes économiques, politiques, religieux, de toutes sortes, démographiques, climatiques, etc., ouais. Et qui sont liés les uns aux autres et qui nécessitent à ce moment-là de briser les barrières. Mais bien entendu, on ne peut pas avoir une connaissance complète, on peut avoir la connaissance la moins mauvaise et avec des incertitudes qu'il faut, c'est-à-dire voir quelles sont les probabilités du devenir, mais au même temps savoir que ce qui est probable ne va pas arriver certainement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le pire est probable, mais il n'est pas sûr du tout.
Heureusement, on a encore une petite lueur d'espoir. Clément nous dit, j'adore apprendre des choses, notamment scientifiques, pour connaître, comprendre, mais également pour anticiper en adaptant certains de mes comportements. Pourtant, je sais que penser savoir, penser être rationnel et tout connaître est véritablement irrationnel. C'est nier la complexité du vivant. Alors comment garder cette dernière pensée plus forte, supérieure à l'autre, pour éviter différents naufrages de la vie quotidienne? Oui. Est-ce que vous avez envie de lui répondre?
Vous savez, à mon avis, il faut vivre, il faut penser que toute l'aventure humaine, comme l'aventure de Lévi, mais notre aventure humaine, est une aventure inconnue. On ne pouvait pas savoir dans les petites sociétés de la préhistoire qu'on entrerait dans un monde de société historique, avec État, ville, etc. On ne pouvait pas savoir. Et toutes les étapes sont absolument inattendues. Le développement de la civilisation industrielle était absolument inattendu. Je veux dire que... et puis, prenez le 11 septembre, prenez l'élection de Trump, prenez ce qui va se passer en France. On est... Donc, si vous voulez, il faut, à mon avis, savoir que nous vivons une aventure qui comporte sa part d'inconnu, que ça a toujours été le cas pour l'humanité. Bien entendu, nous avons besoin le plus possible de sécurité, comme les sécurités sociales, les sécurités de l'emploi, les sécurités de santé. Mais nous n'avons aucune sécurité sur ce que sera le destin de notre vie personnelle, le destin de notre société. Ouais. Et donc, il faut vivre étant capable d'affronter l'incertitude, mais avec les élans que peuvent nous donner le sentiment de fraternité, de solidarité, de communion.
Ouais, alors ça aussi, c'est nos antagonismes, hein. C'est cette perception, cette réalité de nous-mêmes, c'est moi-je, et puis aussi le moi-je intégré dans une communauté. L'un ne va pas sans l'autre. Hein.
Exactement, je pense que l'aspiration humaine profonde, c'est celle de la réalisation du soi, c'est-à-dire du je, mais toujours au sein d'une communauté, d'un nous. Parce que si le je est étouffé par le nous, nous perdons notre personnalité, et si le nous est dissous par le je, nous vivons dans un égoïsme fermé qui ne nous donne aucun bonheur. Donc c'est ça qui nous donne le sens de la vie. Parce que la vie, nous la recevons, nous ne savons pas pourquoi, elle n'a pas de sens. Mais je dis, nous, à nous de lui donner une sens. Moi, quand je parle de la qualité poétique de la vie, c'est-à-dire cette possibilité de communier, d'admirer, de nous émerveiller, d'aimer, de jouer, etc. C'est ça que nous, pour moi, le sens que je donne à la vie. Et en plus, c'est le seul sens qui puisse non pas dissoudre, mais refouler les angoisses et les peurs de l'inconnu et de la mort.
C'est ça. Vous dites finalement, cette existence poétique, elle est possible en admettant et en embrassant cette complexité,
évidemment. Exactement.
Et ces mystères. Dès sa naissance, la vie a été parasitée par la mort. Alors là encore, on parlait des étoiles tout à l'heure. La vie, comme le cerveau, ce sont des lois du cosmos. Au fond, la vie a besoin, ne peut exister que par la mort. Et au fond, la reproduction, c'est la survie permanente.
Bien sûr, parce que le monde est guidé par ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique, qui nous dit qu'en gros, que tout système organisé, à un moment donné, tend vers la désorganisation et que l'univers tend vers le désordre. Donc, dès que la vie est née, elle s'est trouvée au sein de ce problème, parce que vivre, c'est dépenser de l'énergie, ne serait-ce que pour respirer, ne serait-ce que pour manger, ne serait-ce que pour assimiler, etc. Et à ce moment-là, nous sommes obligés de trouver de l'énergie en nous alimentant. Sinon, privés d'énergie, nous mourrons. Donc, vivre est à la fois vivre sans arrêt contre la mort, mais comme en même temps nous nous dégradons sans arrêt, pour la mort et contre la mort. Il y a ce jeu avec la mort qui est permanent.
Donc c'est ce duel, hein. Oui. Qui est là
Oui, intime, ouais. Un duel. Parce que la vie qui est maligne, de nous, comme vous et comme moi, nous avons des organismes de millions de cellules. Qu'est-ce qui se passe? Nos cellules meurent et sont remplacées par des nouvelles.
30 millions à chaque seconde. Hein.
Voilà. Et c'est parce qu'il y a ces morts de 30 millions de cellules chaque seconde que nous continuons à être jeunes en vieillissant. Jusqu'à une certaine limite, mais qui peut-être pourrait être un peu reculée.
Edgar Morin, justement, vous parliez d'intelligence, les capacités cognitives. Alors là aussi, il y a tout un champ de la connaissance qui s'est beaucoup transformé ces derniers temps, dans le domaine de l'éthologie en particulier. C'est-à-dire qu'on découvre que d'autres êtres vivants, les animaux ou les plantes d'ailleurs, sont doués de capacités cognitives.
Oui.
Et même les bactéries, par exemple.
Bien sûr. Ouais. Et c'est une grande découverte, puisque les bactéries communiquent entre elles. Et non seulement elles communiquent par leur langage à elles, mais elles peuvent s'entraider en se refilant des bouts d'ADN. Et ensuite, dans certains cas, elles peuvent créer une entité solidaire et puis après se redisperser si, par exemple, des conditions de nourriture deviennent à manquer. Et d'ailleurs, la vie des polycellulaires que nous sommes sont nées d'un assemblage devenu permanent d'unicellulaires qui était à l'origine des bactéries. Donc, si vous voulez, nous avons appris que... Moi, la chose qui m'avait frappé il y a déjà une trentaine d'années, et je l'avais intégré dans la méthode, c'est de cette expérience qu'avaient fait des botanistes sur des arbres. Ils avaient coupé toutes les feuilles d'un arbre. Alors, l'arbre, il avait réagi avec un surcroît de sève pour faire des nouvelles feuilles. Mais il avait aussi sécrété un produit antiparasite parce qu'il avait compris qu'il avait un parasite sans savoir lequel. Mais les arbres de même espèce du voisinage ont commencé par sécréter l'antiparasite. Autrement dit, il y a beaucoup plus de connexions, de connaissances, de langage, de communication dans l'univers que nous l'avait imaginé.
Edgar Morin, vous êtes avec nous cet après-midi.
Call it how it is. Hendrix. I promise I swear, I'll admit it. Yo. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, Represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. Two cups, toast up with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle, I'm a living proof. Ain't compromising, half a million on the coup. Drug houses, looking like Peru. Graduated, I was overdue. I'm a pink money, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Ocean now, cruising Biscayne. Hit fire, top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Big fire, Percocet, Miley Percocet. Big fire, Percocet, Miley Percocet. Big fire, represent, gotta represent. Gang, gang, chase a chick, never chase a bitch. Big fire, mask on, fuck it, mask off. Big fire, mask on, fuck it, mask off. Big fire, Percocet, Miley Percocet. Big fire, chase a chick, never chase a bitch. Chase no bitches. Photo maybe, I drive anything. Buy my rings, make them go insane.
Mescoff Future à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Edgar Morin, connaissance, ignorance, mystère, c'est aux éditions Fayard. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et vous disiez, regardez ce qui va se passer également en France. Qu'est-ce que vous laissiez entendre ?
Si je suis au courant ?
Non, qu'est-ce que vous laissiez entendre de ce qui va se passer en France pour nos élections ?
Ah, écoutez, je ne laisse pas entendre. Je pense que partout arrivent des sortes de post-démocratie, qui restent encore semi-démocratiques, avec des systèmes plus ou moins autoritaires. Et on le voit en Europe avec la Hongrie, on le voit avec la Pologne, avec la Turquie, avec la Russie. Et ce processus, on voit dans d'autres pays européens, l'Autriche a failli y passer, et la France a une force puissante qui peut nous conduire dans ce sens-là. Voilà ce que l'on voit. On voit, disons, le progrès, l'accroissement de systèmes autoritaires qui dégradent profondément la démocratie.
Vous voyez Marine Le Pen à l'Élysée en mai prochain ?
Ah, c'est possible. Vous savez, aujourd'hui, c'est une des possibilités. Parce qu'il ne faut pas compter simplement sur le fait qu'elle plafonne dans les sondages à 25-26. Il y a beaucoup une part d'indécis, il y a une part qui ne se sont pas manifestés. Moi, je crois, on ne sait pas, vous savez, on ne peut pas prévoir à l'avance. Le jeu est encore très, très incertain. On n'est pas arrivé au dernier virage. Mais moi, je pense que depuis plusieurs mois, c'est une possibilité inscrite dans l'élection.
Marjorie nous dit ceci, je n'ai jamais compris pourquoi l'enseignement des sciences n'insiste pas plus sur le fait que les connaissances transmises sont une vérité en l'état actuel des connaissances et non une vérité absolue gravée dans le marbre, ce qui permettrait aux élèves un doute constructif et non des doutes conspirationnistes. Est-ce qu'on nous apprend assez le doute d'abord ? Est-ce qu'on nous apprend assez le doute à l'école ?
Écoutez,
en philo, c'est ce qu'on enseigne. Mais
c'est la tendance à absolutiser le présent qui existe dans tous les domaines. On a l'impression que le présent, on se croit réaliste parce qu'on croit que le présent ne va pas bouger. Alors que le propre du présent, c'est de pouvoir se transformer. Et ça, c'est vrai aussi. Même dans les théories scientifiques, on croit qu'au 19e siècle, toutes les théories scientifiques du 19e siècle, sauf deux, ont été abandonnées pour de nouvelles théories. Donc, si vous voulez, il faut être conscient que, d'ailleurs, Popper l'avait dit, une théorie scientifique, c'est le contraire d'une théorie religieuse, parce que la théorie religieuse, elle est absolue. Mmh. Une théorie scientifique, elle peut se modifier en fonction des connaissances nouvelles et des points de vue nouveaux. Donc, il faut, à mon avis, elle a tout à fait raison, cette personne qui pose cette question, il faut montrer que tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est un moment de la connaissance. Et un moment aussi, de moment de la connaissance, j'ajouterais, est un moment de l'inconnu aussi.
Edgar Morin, l'époque que nous vivons et cette post-humanité, justement, qui termine votre ouvrage, elle est synonyme de quoi aujourd'hui? Elle est synonyme d'espoir ou au contraire totalement de désastre? Parce qu'on voit quand même les replis qui se généralisent, les conflits, les identités ethniques qui sont critiquées, dont on a peur. Qu'est-ce que ça dit au fond de notre époque et de cet humain qui va en se transformant?
Oui, c'est ça le grand paradoxe, c'est que le processus qui commande le développement de la planète, qui est le processus où les trois moteurs sont liés, science, technique, économie, c'est un processus qui, d'une part, produit les perspectives de ce qu'on appelle cette transhumanité, et d'autre part, produit les catastrophes écologiques, nucléaires et autres. Alors, en ce qui concerne cette transhumanité ou post-humanité, c'est vrai de dire que les cellules souches, les interventions génétiques, la médecine prédictive, enfin tout ceci peut prolonger la vie humaine et prolonger non pas dans un état sénile, mais dans un état, je dirais non, sinon juvénile, dans un état de santé. Mais c'est une illusion de croire que ce prolongement va conduire à l'immortalité. Car rien de ce qui est dans le monde n'est immortel, y compris le monde lui-même, et qu'on ne serait pas à l'abri des virus, des bactéries, des catastrophes. Oui. Alors, mais qu'on puisse prolonger. Deuxièmement, que les robots et les machines intelligentes puissent faire la plupart des travaux pénibles ou de contrôle, ça je le crois sans peine, mais tout ceci, les transhumanistes ont une vision d'un monde organisé, harmonieux, en quelque sorte sous le contrôle d'un algorithme, c'est-à-dire que tout est contrôlé. Et c'est là qu'est l'illusion, à mon avis. Il y a l'inattendu a toujours joué son rôle dans la création et dans l'aventure humaine. Et c'est là aussi où ils ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas d'augmenter l'homme, il faut l'améliorer. Mmh. Et actuellement, autant grand est le progrès scientifique et technique, autant est terrible la régression morale, affective et intellectuelle. Nous vivons une crise de l'esprit et de l'intelligence. Et à mon avis, c'est ça qui est l'élément principal.
Justement, autour des rêves des transhumanistes, écoutons l'extrait d'un reportage d'Arte qui a été diffusé en avril de l'année dernière. Immortalité, dernière frontière, c'était son titre.
Je définirais le transhumanisme comme la poursuite de l'idée humaniste classique qu'on peut améliorer la condition humaine. On peut faire en sorte de vivre plus longtemps par l'addition de technologies et grâce aussi à la biotechnologie. On peut améliorer l'intelligence, avoir des émotions plus positives, s'entraîner à de nouveaux modes de fonctionnement. Et peut-être à long terme, changer à tel point qu'on deviendra une autre espèce, ou du moins une espèce différente de celle d'aujourd'hui. À la lumière de l'évolution, il est évident que notre espèce n'en est qu'à ses débuts. Même sans rien faire, nous allons évoluer et peut-être nous éteindre. Du point de vue de l'humanité, nous ferions sans doute mieux de prendre en charge l'évolution et de nous assurer d'aller dans la bonne direction. Car l'évolution ne se préoccupe pas des individus. Elle élimine les moins adaptés. Nous valons mieux que ça. L'évolution nous a peut-être créés, mais nous pouvons faire bien mieux.
Edgar Morin, le post-humanisme et le transhumanisme, vous dites d'ailleurs à quel point ce dépassement de l'humanité actuelle ne se fera pas sans la disparition de l'humain. C'est-à-dire qu'à terme, c'est ça qui est en jeu, au fond, non?
Je pense qu'effectivement, s'il se réalise, il y aura un phénomène de mutation, de transformation aussi important que le passage à Homo sapiens, d'Homo erectus, et à quelque chose. Mais ce que je crains, c'est que cette intelligence nouvelle soit une intelligence purement d'ordinateur. Parce que vous savez, le propre, la créativité de l'intelligence humaine, c'est la liaison entre la raison et l'affectivité, et le sentiment, et l'imagination, et le rêve. Donc, si vous enlevez cette part de rêve, d'imagination et d'affectivité, vous arrivez, là, vous faites que finalement, le post-humain, ça sera lui-même un super robot. Donc, ceux qui sont les promoteurs de cette vision-là n'ont absolument pas conscience de cette réalité, de cette complexité humaine. Et c'est ça que je trouve grave. Et d'autre part, ils n'ont pas conscience que le même processus conduit des désastres en chaîne sur la Terre avec toutes les catastrophes écologiques, voire nucléaires. Il faut penser que, en ce moment même, les États-Unis et la Russie ont décidé d'augmenter leur arsenal nucléaire, que partout dans le monde, on réarme. Il faut penser qu'on est dans une sorte de course folle. Ils vont penser que l'humanité n'a pas conscience de sa communauté de destin. Au contraire, la crise mondiale fait que chacun se referme sur une identité particulière et que l'angoisse se crée des peurs, des ennemis imaginaires, des menaces imaginaires comme celle de l'immigré, du réfugié, de l'étranger.
Ça, c'est la conséquence directe de cette crise de l'intelligence dont vous parliez tout à l'heure, Edgar Morin.
Non, ce qui se passe actuellement est une conséquence de l'absence d'une intelligence complexe, consciente des phénomènes. Et je pense que la transhumanité ne peut développer, n'a pas le sens de cette complexité et de la complexité humaine. Il croit simplement que l'homme augmenté, c'est un super ingénieur, un super technicien. Mais même les ingénieurs et les techniciens, ils ont un cœur, une vie sentimentale, de l'amour, etc. Donc, si vous voulez, ils oublient cette dimension capitale de l'humain. Ils oublient qu'on est des êtres multiples et contradictoires. Et c'est ça, à mon avis. Ouais. Ils nous conduisent dans l'illusion. Et le fait qu'ils ne veulent pas voir les processus catastrophiques que le développement de la science et de la technique et de l'économie produisent sans arrêt montre que s'il y a transhumanité, ça sera pour une toute petite élite qui vivra enfermée dans des barbelés, protégée de la masse de l'humanité.
Mais qui ne pourra peut-être ne pas se protéger des virus, par exemple. Vous dites, voilà, ça c'est une éventualité auquel les transhumanistes ne pensent pas, mais peut-être qu'ils mourront tout simplement décimés par des virus.
Oui, on ne peut pas savoir. Vous savez, il est très possible que des branches partielles de l'humanité se détachent à chaque fois pour aller coloniser une nouvelle planète habitable et qu'une aventure se poursuive. Mais nous, vous savez, c'est là aussi nous retrouvons la part d'inconnu, de mystère extraordinaire. Le part de cette aventure qui est l'aventure humaine, qui est la suite de l'aventure de la vie et qui aussi est poussée par l'aventure du cosmos. C'est ce côté inconnu, étonnant, incroyable, c'est ça dont il faut être conscient, ne serait-ce que pour pouvoir jouir de la vie, de ses beautés, de ses merveilles.
Vous dites que c'est une aventure folle qui mêle le sublime et l'horrible. Elle est partie intégrante, marginale ou en avant-garde de l'aventure de l'univers. Nous continuons notre aventure au sein de l'aventure cosmique sans savoir où elles vont. Les dernières lignes de votre ouvrage, voilà. Edgar Morin. Connaissance, ignorance, mystère, c'est chez Fayard. Merci infiniment d'être venu cet après-midi dans la Tête au Carré.
Merci à vous.
Merci à vous.